France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis avec Églantine Gabec-Sialé pour évoquer un livre, Dieu au milieu des ruines. Mais pas seulement, tant votre vie propose des angles différents sur vos liens avec les communautés d'Orient. Des communautés chrétiennes bien entendu, mais plus largement, grâce à ces nombreux voyages et surtout séjours que vous avez effectués. Alors j'ai essayé de faire une liste, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Iran, il y a l'Égypte. Bonjour Églantine.
Bonjour Sébastien, pour toi.
Votre ouvrage est celui des traces, non comme un conservatoire, mais comme une matière vivante. Autant de points de civilisation offerts par cette multitude de rencontres que vous évoquez. Alors une première question Églantine, comment avez-vous découvert le christianisme oriental, tout simplement ?
Je l'ai découvert en plutôt, je dirais en deux temps. D'abord une première fois en passant à côté, lorsque je vivais en Égypte. Je crois que j'avais 22 ans, j'avais à peine compris qu'il y avait des Coptes et que ces Coptes étaient des chrétiens orientaux. Et le deuxième temps, là où, disons même, je dirais trois temps. Le deuxième temps, ce fut en Syrie, où je vivais au monastère de Marmoussa, qui lui-même est de rite syriaque catholique. Donc, de fait, j'ai découvert ce rite et des moines syriaques catholiques. Et j'ai ensuite découvert qu'il y avait une multitude de rites orientaux présents en Syrie. À vrai dire, je m'y suis pas plus intéressée que ça, sauf que je vivais avec eux. Et c'est ensuite vraiment en travaillant à l'œuvre d'Orient, donc depuis près de 8 ans maintenant, que j'ai découvert les rites orientaux, leurs différences et leur richesse.
Alors, vous allez un tout petit peu vite tout de même, parce que vous mentionnez déjà un séjour en Égypte et un séjour en Syrie. Voilà, votre vocation était déjà dans ce désir de vivre à l'étranger, de vivre dans ces pays-là. Comment vous êtes arrivé vous-même dans ces pays-là ?
Par hasard. J'avais une vocation, je sais pas, une envie d'aller voir ailleurs qui était assez forte. Et donc j'ai fait une demande de volontariat assez classique comme on fait après ses études. Et on m'a proposé d'aller en Égypte où j'ai passé un an. À vrai dire, le pays ne m'a pas tellement plu, la culture non plus, je crois que j'ai rien compris. Mais bon, mais ce pays était magnifique. Je gardais quand même un arrière-goût, une envie de continuer cette expérience à l'étranger, de voir un peu ce que m'offrait le monde, quoi. Donc j'ai fait une autre demande de volontariat avec une mention très claire, je ne veux pas aller au Moyen-Orient, puisque j'avais donc de fait un jugement définitif sur tout le Moyen-Orient après avoir vécu en Égypte, et je ne veux pas vivre dans une communauté religieuse, parce que bon, un an c'était bien, j'ai pas de vocation moniale. Et là, j'ai reçu une proposition magnifique qui était celle d'un monastère en Syrie.
Donc c'est ce monastère de Marmoussa dont nous allons parler un petit peu, voilà, parce qu'il est attaché avec une figure éminente, le père Paolo Dall'Oglio, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans le cadre de cette émission avec différents intervenants. Alors votre spécificité, si je puis me permettre par rapport à cette personnalité, c'est que vous l'avez accompagné dans la rédaction de plusieurs ouvrages, des ouvrages qui ont marqué. Comment s'est passée cette collaboration ?
La première fois, c'était en fait, il avait été le Vatican, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, lui avait demandé des précisions un peu sur ses positions, notamment par rapport à l'islam. C'était alors le cardinal Joseph Ratzinger qui est devenu Benoît XVI qui lui demandait un peu d'éclaircir. Est-ce qu'on pouvait dire que Mohamed était un prophète pour un catholique? Est-ce que voilà. Et donc on a dû écrire cette défense au Vatican. Il préférait l'écrire en français pour que ce soit lu le plus possible en Syrie avec un clergé majoritairement francophone. Et donc on a passé un mois un peu enfermé dans la bibliothèque à écrire une défense assez théologique sur des points très très précis par rapport aussi parce qu'il fondait un monastère et donc il avait des points de doctrine à éclaircir. À vrai dire, là encore, j'ai pas tout compris, mais je faisais semblant de comprendre parce que le père Paolo avait une pensée très complexe, très foisonnante. Il parlait un français parfait, mais il ne l'écrivait pas du tout. Mais son français était même très très pointu, donc c'est ce qui m'agaçait parce qu'il le parlait mieux que moi au final. Et donc on a rencontré à ce moment-là une éditrice qui est venue au monastère et qui nous a dit mais peut-être que ce serait bien de faire un livre de ses propos. Et donc ensuite pendant 2 ans, moi je suis rentrée en France, on a écrit un peu à distance, un peu en Syrie, un peu en France, un premier livre qui s'appelait Amoureux de l'Islam, croyant en Jésus. Donc, il était vraiment un livre de dialogue interreligieux, un peu pointu, un peu sur la ligne de Louis Massignon. Et ensuite, la guerre a éclaté en Syrie, donc en 2011. Il a été expulsé en 2012 et l'éditrice m'a recontacté en disant il faut qu'il exprime ce qu'il a à dire, cette rage qu'il habite par rapport à cette guerre. Et donc, on a écrit ce deuxième livre, La rage et la lumière, un prêtre dans la révolution syrienne, qui est sorti en mai 2013 et le père Paolo a disparu en juillet 2013.
Regardez-vous comme souvenir de ces séances de travail. Donc vous êtes au monastère de Marmoussa, vous êtes en Syrie, vous avez d'ailleurs de très belles pages. Permettez-moi de vous citer. Chaque soir, lorsque je vivais dans le monastère de Marmoussa en Syrie, pendant que les moines et moniales méditaient, je restais dans ma chambre de l'autre côté du Wadi. J'écoutais le silence qui s'abattait sur le désert. J'écoutais leur silence. Quand venait l'heure de la messe, il me semblait que leur prière arrivait jusqu'à moi. Peut-être ai-je passé mes 2 meilleures années là-bas, justement parce que j'étais enveloppé de prière. Est-ce que c'est cette prière qui vous a permis d'écrire ces livres ?
Peut-être, en partie, parce que pour suivre la pensée de Paolo, il fallait beaucoup de patience. Donc je pense que la prière a une
action. Qui est un jésuite, donc qui est un théologien, oui. Qui va dans les détails. Qui...
Oui. Et donc je pense que la prière aide à la patience. Même si... Ensuite, ce que je retiens de ces séances de travail, c'est la personnalité de Paolo, qui était un grand intellectuel, mais qui était aussi quelqu'un de très très affectif, et qui s'emportait, qui était très bouillonnant, quoi. Et sinon, je retiens surtout l'odeur du poêle à Sobia qui nous a intoxiqués pendant un mois parce qu'il faisait très froid ce mois de janvier.
Et vous êtes retourné, je crois, à Marmoussa.
J'y suis retournée, j'ai vécu jusqu'en 2006, j'ai pu y retourner jusqu'en 2008 et ensuite quand la guerre est arrivée, je n'ai pas pu y retourner entre 2011 et 2022 à cause de mes liens avec Paolo puisque je ne pouvais pas avoir de visa et donc j'ai pu y retourner en 2022 donc après 13 ans sans avoir pu y retourner. Et ça a été assez bouleversant. Alors, je savais ce que ce pays était devenu, je savais la guerre qu'il avait défigurée, les souffrances de ses habitants, mais je pensais pas que c'était à ce point que retrouver ce pays en ruine, complètement. Et ça a été un choc négatif, évidemment. Et à la fois, retrouver Marmoussa, ça a été un autre bouleversement. Mais de retrouver, je me souviens très bien d'Abouriad, le jardinier, qui me voit et qui me dit « mais ça fait 14 ans que je t'attends ». Et moi, je m'étais trompée d'une année en plus. Et il a relevé et dit « non, c'est pas 13 ans, c'est 14 ans ».
Ça veut dire que le temps n'est pas le même, ne passe pas de la même façon ?
Ben, ça veut dire qu'il avait compté. Et à son visage, j'ai vu la souffrance aussi de ces 14 années, dans le visage de tous les Syriens, mais particulièrement ceux de la communauté de Marmoussa avec qui j'avais vécu et donc que je connaissais le mieux.
Alors une autre personnalité dont vous parlez et qui signe la préface, donc c'est Jacques Morade, Monseigneur Jacques Morade maintenant, qui a été donc l'un des proches du père Paolo, peut-être son adjoint, je ne sais pas comment.
Pratiquement un cofondateur de cette communauté de Marmoussa.
Voilà, un cofondateur, c'est la bonne expression, donc dans la tradition syriaque catholique, voilà, on ne va pas refaire le lieu, mais pour un peu positionner, on est au nord de Damas à 80 kilomètres. Vous revoyez Monseigneur Mourad maintenant, qui a été lui-même prisonnier de Daesh.
Oui, en 2015. Il a été fait prisonnier le 21 mai 2015. Il y a des dates qui restent un peu en tête. Et il a pu en sortir 5 mois après, en septembre, en s'évadant d'une manière un peu rocambolesque, avec un ami musulman sur une mobylette qu'il a recouvert d'un kéfier. Et ensuite, il est resté éloigné de la Syrie, parce que pour lui, c'était impossible de... Alors, c'est paradoxal à comprendre, mais c'était impossible, parce qu'il a été enlevé par Daesh, mais il n'arrivait pas à vivre non plus avec ce régime-là, le régime des Assad. Et donc, il s'en est éloigné, et il a pu n'y retourner qu'en 2020, juste avant que les frontières internationales se ferment. Et ensuite, on lui a demandé de devenir archevêque syriaque catholique de Homs, Hama et Nébek. Et il a été ordonné en mars 2023. Et là, j'ai pu à nouveau me retourner en Syrie pour cet événement qui était à la fois joyeux et puis, et je ne sais pas si c'était vraiment sa vocation de devenir archevêque, parce que c'était un moine avant tout. Et il a aujourd'hui une très forte charge sur ses épaules.
Alors Eglantine, vous travaillez pour l'œuvre d'Orion, ça vous nous l'avez confié donc depuis pas mal d'années déjà. Quelle est la complémentarité que ce travail de terrain vous a apporté par rapport à... Vous étiez une voyageuse qui s'est intéressée à ces cultures et finalement qui a été passionnée par ces sujets. Là, vous passez un petit peu de l'autre côté de la barrière maintenant, depuis 8 ans déjà quand même, où vous aidez concrètement les communautés à se reconstruire.
Oui, j'aide à travers l'œuvre d'Orient, évidemment, mais c'est vrai que j'ai un travail qui est plutôt de le titre exact est chargé de mission, ce qui au fond ne veut rien dire, mais ce qui me permet de faire plusieurs choses, dont des reportages pour l'œuvre d'Orient, et souvent au contact des communautés qu'on soutient, donc dans nos 23 pays d'action. Et ça a été finalement un prolongement de mes années en Syrie, puis de mes 2 années ensuite en Irak, où j'ai approfondi intellectuellement ce qu'étaient les chrétiens d'Orient, ce qui n'est jamais mauvais, d'avoir un peu plus de connaissances. Et ensuite, ça m'a donné cette chance incroyable de pouvoir partager le quotidien de ces communautés et d'y retourner fréquemment. Et donc de créer des liens d'amitié avec des religieuses, que ce soit au Liban, où je parle de sœur Marcel, ou en Irak avec sœur Elishua, particulièrement d'ailleurs avec les petites sœurs de Jésus au Moyen-Orient. Et ce lien, c'est quelque chose de très très précieux, surtout dans des pays qui sont toujours soumis à une instabilité un peu angoissante.
Alors, on vous sent embêté dès qu'il s'agit de parler de foi. C'est d'ailleurs des questions très, très personnelles. Mais néanmoins, sur ces formes de la foi que vous n'avez cessé de fréquenter depuis 2005, hein, votre premier voyage à Tabriz, je crois, en Iran, où vous rencontrez des communautés chrétiennes, puis la Syrie. Est-ce que pour vous, cette foi qui est exprimée par cet Orient chrétien est une survivance du passé, ou est-ce que c'est quelque chose qui véritablement parle au cœur des fidèles?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a effectivement cette survivance du passé qui est plus une... On est chrétien en Orient parce que nos parents sont chrétiens, donc c'est assez traditionnel, parfois folklorique. Parfois, ça peut nous sembler un peu creux, vu d'extérieur, parce que ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas le choix de l'être. Enfin, les chrétiens, c'est un peu vaste. Ils sont maronites, ils sont melkites, et ils sont un peu enfermés dans cette identité. Mais à la fois, au vu des souffrances qu'ils traversent, cette foi, elle est obligée d'être vive. Elle peut pas se nourrir que de folklore et ça, moi, je l'ai particulièrement vu avec les religieuses, mais aussi des jeunes laïcs. C'est une foi déraisonnable. Il y a un moment où je me souviens d'être avec cette sœur dans les ruines de Homs, et je me dis, mais comment on croit encore? Moi qui abandonne assez vite les choses, j'aurais dit, bon, ça suffit, quoi. C'est pas, tout ça n'est qu'une vaste blague. Et non, elles sont dans des situations complètement désespérées, inextricables, et elles disent les choses avec gravité et en même temps en souriant. Et je me dis, ça c'est pas... Oui, il y a une force morale, il y a quelque chose qui est sans doute dû à leur personnalité, mais il y a quelque chose qui les tient, qui est un peu leur colonne vertébrale et qui les fait rayonner.
Alors vous parlez beaucoup de religieuses, vous évoquez ces rencontres qui sont absolument très émouvantes. Comment vous diriez, vous pourriez décrire la place des femmes, non pas simplement dans les communautés chrétiennes d'Orient, mais en général dans ces sociétés?
Elle est assez paradoxale et je pense un peu un pas de côté de ce qu'on pense justement de cette place des femmes. Je repense notamment encore une fois à la Syrie parce que j'y suis allée il y a quelques mois en janvier, où les femmes sont à présent 80%, et donc une grosse majorité du pays, puisque les hommes sont partis pour fuir le service militaire, sont morts, enfin c'est... Et où finalement elles ont pris le pouvoir, alors elles ont été obligées de pallier à tout. Et on a tendance à voir surtout les sociétés au Moyen-Orient un peu où les femmes sont mises à l'écart. Or, même quand elles sont mises à l'écart de fait dans leur foyer, on les entend bien. Elles ont des personnalités assez fortes et on sent que c'est elles qui tiennent leur famille, qui font les choix parfois. Malgré une société dont on pense qu'elle est machiste, mais au fond, elle est moi, je pense que ce sont elles en sous-main qui tiennent un peu tout quand elles le peuvent. Je pense aux Kurdes, notamment, où c'est assez, assez flagrant, puisqu'elles elles combattent aussi. Et c'est vrai que quand elles reviennent ensuite dans leur foyer, c'est plus compliqué de leur dire de se cantonner aux tâches ménagères. Même si ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a... ce sont des femmes qui, pour qui la vie est dure, et donc qui ont appris à lutter, et qui ont des caractères souvent bien trempés. Et ça s'entend dans les rues.
Faire confiance, écrivez-vous, donner sa confiance, se fier à quelqu'un. Longtemps, ces verbes me sont restés étrangers, et peut-être le reste-t-il encore un peu. Mes bouts de vie en Syrie, en Irak, les ont probablement mis un peu plus à mal, jusqu'à la paranoïa. Vous en êtes où de cette confiance?
Je crois que ça va mieux. Mais effectivement, essentiellement en Irak, c'était compliqué, parce que c'était au moment de la prise de Mossoul. Enfin, c'était vraiment un contexte de guerre, et on a un peu tendance à s'imaginer que tous les gens autour de nous sont des agents doubles. Ou... Enfin, c'est un univers assez particulier. Et surtout, c'est difficile de faire, c'est pas tellement de faire confiance, mais d'avoir foi aussi en l'avenir, parce que tout est tellement sur la brèche. Je pense à l'explosion du port de Beyrouth, où, enfin, le Liban est quand même le paroxysme des brèches, des choses sur lesquelles on marche, on est toujours en équilibre. Et finalement, si on se met à tenir aux gens, comme moi je tiens à certaines de ces religieuses, je sais aussi qu'à tout moment, il peut leur arriver quelque chose, parce que le contexte dans lequel elle vit est compliqué. Donc il y a une inquiétude qui fait que je peux pas avoir fondamentalement confiance. Mais j'ai confiance en elles, en tout cas, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont.
Vous avez un métier qui vous amène à circuler de manière régulière. Vous évoquiez la Syrie. Est-ce que vous avez quand même on était dans la confiance, mais comme une dose d'optimisme un petit peu pour l'avenir? On pense à la Syrie notamment.
Oui, j'ai envie de l'avoir. Et j'ai envie de l'avoir notamment parce que eux l'ont. Alors de temps en temps, ils sont un peu plus mitigés sur la manière dont les choses vont se passer. Mais au moins au début, c'était assez fort. J'avais fait un reportage sur les femmes syriennes, et elles me disaient toutes, oui, ça peut être compliqué, surtout pour nous en tant que femmes, mais jamais on ne veut revenir avant le 8 décembre. Et c'était quelque chose de très net. Et donc moi, je veux être optimiste parce qu'ils sont optimistes. Et puis si moi, je me dis, mais de toute façon, ça va jamais marcher parce que ça marche jamais, frère, quel signe je donne, quoi. Donc je veux croire avec eux, évidemment. Et je mets beaucoup d'espoir là-dedans, pour cette nouvelle Syrie.
Une partie intéressante, c'est cette radio que vous avez pilotée donc à Erbil, dans les camps de réfugiés à Ain Kawa, ou je crois un tout petit peu à l'ouest de la ville. Donc la radio Salam.
El Salam, oui.
El Salam, voilà, qui existe toujours.
Oui, et qui va fêter ses 10 ans le 5 avril.
Donc une radio qui permet de donner une information dans plusieurs langues à tous ces réfugiés.
Oui, alors maintenant elle a un petit peu évolué, parce que c'était donc au moment de la prise de la plaine de Ninive, elle était diffusée en arabe, en kurde et en sourate, qui est l'équivalent de l'araméen en Irak. Et donc elle était destinée à tous les réfugiés. Donc les réfugiés, c'était les gens qui venaient de Syrie, et les déplacés, donc les déplacés internes de la plaine de Ninive, qu'ils soient sunnites, chiites, yazidis ou chrétiens. Et donc c'était une manière de faire du lien entre ces communautés très blessées, mais qui étaient encore enfermés chacun dans des camps de chrétiens, des camps de sunnites. On s'était dit, enfin, l'œuvre d'Orient et la guilde qui sont à l'origine de cette radio, s'était dit, il faut que ces communautés parlent entre elles, parce que sinon on est reparti pour des mauvaises compréhensions, au mieux.
La guilde du Raid, voilà dont vous parlez, je salue Hugues de Vavrin, voilà.
Oui, qui est aussi à l'origine de cette radio.
À l'origine, et nous étions à l'inauguration en 2015 avec Sylvain Tesson. À l'époque. Oui. Voilà une formidable épopée. Votre dernier chapitre s'appelle L'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. Charles Péguy.
Oui, je me disais bien que c'était pas moi ça qui avait écrit.
Vous évoquez un chef d'orchestre, Karim Wazfi.
Oui.
Si je prononce bien son nom. Alors vous évoquez une scène qui est assez fascinante. 6 mois plus tard, le maestro est revenu, toujours si élégant, improbable, dans ces ruines qui est devenue Karakoch, tout juste libérée. Il pose son violoncelle dans la cathédrale calcinée et entame une mélodie qui dit le cri des pierres et le calvaire des hommes. Puis il joue dans la rue principale de cette ville devenue fantôme. Et c'est là votre message, remettre de la vie, de l'harmonie, là où tout a été saccagé, dire en musique quand les mots ne trouvent plus leur place.
Bah, c'est l'impression qu'il m'a donnée C'était peut-être plus fort dans le, c'était somptueux dans la cathédrale, mais j'ai trouvé ça encore plus émouvant dehors. Parce qu'au fond, tout le monde pouvait aussi écouter. Enfin, tout le monde, il n'y avait pas grand monde dans les ruines de Karakoch, mais il y avait quand même quelques passants et au moins des militaires pouvaient écouter cette musique. Et c'était, j'avais l'impression d'être dans une scène de film complètement improbable, parce qu'en plus c'est un personnage assez haut en couleur, très grand, très un peu excentrique, s'habillant de manière très très originale. Donc c'était une rencontre assez fascinante.
Vous écrivez aussi sur le père Paolo. Un jour, Paolo nous accueillera en criant pour une chose mal rangée, pour faire rentrer les chèvres, pour le plaisir qu'il avait à hurler dans le désert. Un jour, nous reviendrons. Voilà ce que j'ai appris des réfugiés et des déplacés ici en Irak. Cet espoir fou, tenace, revenir et retrouver les disparus.
Oui, je l'ai appris en Irak et ça m'a... Et ensuite, je l'ai senti d'une manière très forte chez les Arméniens du Haut-Karabakh aussi, chez les Syriens, enfin, et chez les Ukrainiens. Cet attachement à la, enfin, évidemment, c'est pas une banalité, mais cet attachement à dire on reviendra, même dans des situations les plus impossibles. Je me souviens de cette dame de Karakoch qui me disait, mais moi, je mourrais à Karakoch. Je sais pas si de fait elle l'a fait. Peut-être que non, parce que peut-être que tout était détruit et qu'elle. Mais cet espoir, en fait, c'est impossible pour des gens déplacés de ne pas revenir chez eux. Je pense que c'est ça qui les fait tenir, et peut-être que c'est aussi notre espérance pour Paolo.
Églantine, je vous remercie infiniment d'être venue jusqu'à nous en ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu au milieu des ruines, un livre vraiment que je recommande très chaleureusement. Les éditions MAM. Merci beaucoup, Églantine.
Merci, Sébastien.
Je remercie François Connac pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Pierrick Charles pour la technique. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Solae, bon dimanche, restez sur France Culture.